France Musique.
Tout le jour, toute la nuit, dès que toi, toujours, toujours, j'en suis ébloui. Que tu sois au loin, qu'importe, puisqu'en moi tendrement je t'emporte, ô mon amour, nuit et jour.
Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de Classic Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h, en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade, la Ritournelle. Cette petite mélodie entêtante et enfantine, il paraît que Deleuze en a fait un concept il y a quelques années de cela. En tout cas, ce qui est certain, c'est que beaucoup de compositeurs, de philosophes, d'écrivains sont depuis lui sensibles à la Ritournelle, comme si elle était une sorte de Graal, l'alpha et oméga de la vérité en musique. Je ne sais pas s'ils sont tous les deux bien marqués par la Ritournelle ce soir. L'un, je sais que oui. L'autre, on va lui demander. Un compositeur et un philosophe sont avec nous jusqu'à 23h. Pierre-Yves Massé, Alyosha Wadlazowski. Bienvenue à tous dans le Classic Club.
Thank you.
glissement de terrain, une pièce pour instruments multiples et traitements électroniques signée Pierre-Yves Massé. Bonsoir Pierre-Yves.
Bonsoir.
Toute la pièce.
C'est une ritournelle.
C'est une ritournelle, on est d'accord. Hein, j'ai pensé à ça en préparant l'émission, mais il faut qu'on prenne ça, parce que c'est trop une ritournelle.
Il fallait la prendre.
Absolument. Vous l'avez conçu comme ça ou non, simplement
si, une
quand
petite
même, mélodie
quand
qui
même,
reste
effectivement, non oui, c'est ça. Bah, disons que c'était vraiment l'idée d'une partir d'une chose extrêmement simple. Et de bâtir une pièce entière là-dessus. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant avec cette pièce, c'est que j'en ai fait plusieurs versions. Donc là, on a écouté la version d'origine que j'avais composée en 2007, si je me souviens bien, ouais, qui est sur le dernier disque paru chez Tzadik en 2013. Et là, tout récemment, j'en ai fait une version pour orchestre, oui, qui a été jouée par le Hong Kong Sinfonietta il y a deux jours.
Voilà,
c'est vraiment d'actualité brûlante.
Ah oui, parce que je signale que Pierre-Yves était encore dans le train il y a une douzaine d'heures, c'est
dans
ça?
Dans l'avion, hein, exactement.
Dans l'avion, oui, pardon, oui. Oui, je dis le train, oui. C'est vrai, j'avais oublié. C'est un peu loin,
oui,
quand même.
Le train, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché.
Vous aimez ça, ces voyages-là? Parce que les compositeurs, aujourd'hui, quand on commence à avoir un peu de succès, c'est votre cas, même plus qu'un peu, on est amené à voyager un peu partout dans le monde, à faire beaucoup d'avions, de trains, oui.
Enfin, j'en fais pas. Pour l'instant, c'est suffisamment rare pour que je trouve ça tout à fait agréable. Ouais. Peut-être que si j'en faisais toutes les semaines, ce serait différent, c'était une expérience formidable.
Vous arrivez à utiliser ce temps-là, le temps des avions? Certains compositeurs, je pense à du sapin qui écrivent.
Non,
à ce moment-là, non.
Ça, j'y arrive pas, non.
C'est encore son voyage.
Oui, voilà, c'est ça. Peut-être avec la routine, ça viendra.
Ouais. J'aime sur cette idée de la ritournelle. Lorsque ça a paru chez Deleuze et Guattari au début des années 80, si je dis pas de bêtises, hein, cette idée de ritournelle, 80, c'est ça. Ça a un petit peu tout bouleversé dans le champ musical. Enfin, tout bouleversé. Tout questionné, parce que ça appelait l'idée peut-être que quelque chose de très simple pouvait être fait. Et que donc, dans le décor ambiant qui était celui de l'époque, c'est-à-dire le post-sérialisme, ça perturbait quelque chose. Je me trompe en disant ça?
Non, alors moi j'étais pas né, enfin c'est l'année de ma naissance, ouais, en fait, 1980,
ah oui,
exactement. Donc c'est évident que ça a dû bouleverser beaucoup de, enfin en tout cas c'est un concept qui porte en lui la simplicité qui allait, ouais, forcément à contre-courant d'une certaine esthétique qui était à l'époque. Et je pense que les années 80, c'est effectivement le moment où on peut situer aussi un certain changement dans
une
la
bascule.
Production.
Oui,
une bascule, ouais, effectivement.
Mais vous, aujourd'hui, vous n'êtes plus là-dedans. Quelqu'un comme vous, Pierre-Yves Massé, vous avez réussi finalement à tout synthétiser. C'est un peu ça,
oui,
aussi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des vieilles querelles qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup moins de complexes à aller vers la simplicité, à aller vers la tonalité ou la consonance plus généralement, parce que c'est pas vraiment la tonalité au sens classique, mais plutôt le rapport à la consonance qui était quand même une chose assez taboue pendant très longtemps. Voilà, c'est des choses qui aujourd'hui sont beaucoup plus facilement, voilà, on peut aller de ce côté-là aussi, quoi. C'est
et
pas
puis
forcément...
mêler aussi des genres qui auparavant étaient un peu séparés, l'écriture contemporaine d'un côté, ce qu'on a appelé longtemps l'acousmatique,
ouais,
ou les musiques électroniques, et puis l'improvisation aussi éventuellement.
Oui, bah, les outils finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui on utilise très facilement des outils aussi bien pour écrire des partitions que pour créer des sons, enregistrer des sons, enfin voilà, tout ça finalement passe par l'informatique, et cet outil arrive du coup, enfin favorise assez facilement ce genre de synthèse.
Je comprends qu'on puisse ne pas aimer les classements, les tiroirs, les cloisonnements, mais si je vous dis post-moderne, ça vous plaît, ça vous déplaît?
Oui, ah, bah, ah, oui. Bah, en même temps, c'est presque une étiquette du passé, j'ai envie de dire.
Mais c'est vrai,
ça
c'est pas faux.
C'est paradoxal, oui. Mais oui, oui, je vois effectivement ce que vous voulez dire, et je pense effectivement que je m'inscris dans une certaine mesure là-dedans. Oui.
Ou peut-être contemporain, en un sens un peu plus fort, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Je salue Alyosha Vadlazovski, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, pourquoi on parle de ritournelle? Parce que vous signez un livre chez Gallimard, dont on parlera en deuxième partie de programme, intitulé donc « Le jeu des ritournelles ». Alors je comprends que le concept fascine les compositeurs, les musiciens en général, mais les philosophes aussi?
Ah oui, mais vous en avez dit un mot d'ailleurs très juste, hein. C'est vrai que le mot ritornello de l'italien, cette petite phrase, cette courte répétition qui revient, finalement c'est un motif autant littéraire, poétique en tout cas, hein, chez les poètes, on retrouve beaucoup cette influence dans la question du rondo, la question de... Et donc la question du retour travaille beaucoup le poète comme le musicien, et c'est vrai que... Voilà, avec Deleuze, d'un seul coup, on a une sorte d'effervescence, on a l'impression que tout se rend compte, qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement, et qu'avec Deleuze, d'un seul coup, on arrive à une sorte de point de basculement, quoi. Toute l'histoire de la musique se retrouve d'un seul coup ramassée, et on ouvre vers de nouvelles voies, de nouvelles réflexions. Donc c'est vrai que c'est très stimulant, en tout cas.
De nouvelles réflexions, vous dites bien de nouveaux dialogues, finalement, avec d'autres arts aussi.
Oui, mais moi, c'est ce qui m'intéresse, avec la ritournelle, c'est un motif transversal, d'une certaine façon. Transversal dans l'histoire de la musique elle-même, parce qu'au 17e, 18e, il y a déjà effectivement des ritournello dans les prologues des opéras, etc. Il y a déjà déjà un travail sur la reprise instrumentale d'une voix, ouais. Et l'échange, le dialogue, etc., le va-et-vient. Le Figaro, évidemment, c'est vous le voilà, l'arrêt, la petite phrase provocatrice de Figaro qui revient comme une ritournelle dans les noces de Figaro de Mozart. Et ça traverse comme ça plusieurs périodes, on retrouve sous des formes différentes. Donc il faut essayer de pister un petit peu ça, suivre un peu à la trace, retrouver un petit peu ces formes qui se dissimulent, qui se cachent et qui réapparaissent d'un seul coup. Et c'est agréable de suivre un peu cette traversée.
Bon, on fera ça avec vous, Alyosha, en deuxième partie de programme, jusque-là, puisqu'il est 22h12. Pierre-Yves Massé et sa prochaine création, troisième suite, mais il faut dire que le titre général, c'est Encyclopédie de la parole, pas une parole musicalisée. En voici une. C'était un extrait de cette encyclopédie de la parole de Pierre-Yves Massé qui était chanté ici, joué au piano. Alors c'est très étrange qu'on vienne entendre le type de voix qui est étrange aussi. Racontez-nous comment ça s'est fait cette pièce, Pierre-Yves. Quel est votre support en fait pour écrire cela?
Alors en fait, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est à la base une femme qui parle dans le métro, qui demande à boire aux passagers du métro. Elle parle en tchèque. Et c'est le point de départ, c'est un document sonore
que vous avez enregistré où vous
qui va qu'on a récupéré, ouais. qui était enregistré, quoi, qui était diffusé sur YouTube. Et donc la base de ce projet, c'est de partir de ce document parlé pour en faire une pièce musicale. Et donc le spectacle, suite numéro 3, est une succession de pièces de cet ordre, c'est-à-dire de documents de paroles qui sont par le jeu de la transcription de la parole et de l'accompagnement pianistique, deviennent des pièces musicales
là,
et théâtrales. Évidemment.
Là, en effet, c'est pas l'original que vous venez d'entendre, c'est quelque chose que vous dites bien, voilà. Qui est réécrit. Hein.
Tout à fait. Réécrit, interprété par Bianca Iannuzzi au chant et Denis Chouillet au piano.
Bah, ça veut dire qu'il faut qu'elle apprenne, parce qu'il y a un certain nombre de pièces là-dedans, de langues, de manière de parler, de chanter.
Tout à fait, puisque le spectacle est en 24 langues.
Ah ouais.
Un des principes du spectacle était de prendre un document par pays de l'Union européenne. Ouais. Il y en a 26 et il y a 24 langues. Donc on a parcouru les 24 langues et les 26 pays. Donc il y a deux langues qui font doublon, l'allemand et le français. Et donc on a travaillé avec des correspondants dans chaque pays.
Ah oui.
À qui on a demandé de trouver des documents et qui, alors certains ont été à la fois nos correspondants et aussi après les coachs vocaux pour les chanteurs justement pour leur apprendre à prononcer correctement des langues qui sont forcément pas forcément maîtrisée par les chanteurs.
Une femme dans le métro, ça veut dire que, bon, j'ai envie de vous dire quelque chose de social ou politique aussi là-dedans. C'est pas n'importe quelle situation de parole.
Oui, tout à fait. Alors, le point un petit peu paradoxal de cette suite numéro 3, c'est que je co-signe avec Joris Lacoste, le metteur en scène, c'est qu'on a voulu choisir des paroles qu'on ne veut pas entendre, des paroles qui ont un effet négatif, qui vont nous ennuyer, nous choquer, nous faire pitié, nous ennuyer, ce genre de choses. Donc c'est un peu paradoxal, puisque finalement on va prendre ce qu'on ne veut pas entendre et on va le mettre sur scène et le faire entendre par la musique. Donc voilà. Là, ce qu'on vient d'entendre n'est pas forcément ce qu'il y a de plus, répulsif, parce qu'on a, il peut y avoir des paroles assez violentes, des discours politiques très, des discours nationalistes ou racistes, ou le spectre est très varié, on va dire. Mais c'est vraiment à chaque fois l'idée d'une parole qui, a priori, nous inspire plutôt du rejet qu'autre chose.
Et puis fait réfléchir peut-être aussi ces situations.
Est un reflet du monde. Le monde à travers un filtre plutôt négatif, effectivement. Ouais.
Pour qu'on se rende bien compte, un autre extrait, cette fois-ci, un poème lu par un enfant lors d'une inauguration officielle.
Tout à fait.
C'est polonais, ça, c'est ça ?
Oui, c'est polonais.
Ouais, on va écouter ça. Donc la voix d'enfant, encore une fois, elle n'est pas faite par l'enfant. On va bien comprendre.
Oui, c'est tout est refait.
Encore réécrit.
Ouais, exactement.
Гості приймаємо богатим отчизни, одріж отдаємо. Тут з нашим патроном маршалком Пілсудським Богу дякуємо і вишівком людським. Тим, хто позаборав отчизна вцалалі, і з радянським стрілом в тилові досталі. Найчастішим вироком було засмічення, кумство і обуда, пусте запомнення. Пам'ять полегла, шляхче до вдяча в тамтим моментом, коли рунав самоліт з польським президентом. Вірним ідеалом не шукав узнання, хоч як від нього дознав оплювання. Ми ту пам'ятами на шпеже Качинським, о тих, хто згинели, Олігу Качинським. Це непочна правда, як Бог допоможе. Пані президенте, пані професоре, сердечне вітаміче, пані прем'єре. Парламентаристів твоє обесності, що стою на страже права і справедливості. Єстеш мужем стану, Bronisz naród z troską, żeby nasza Polska zawsze była Polską.
Bien qu'Ayanoutsi, Laurent Deleuil au piano, Denis Chouillet interprétait ce nouvel extrait de cette suite numéro 3 de l'Encyclopédie de la Parole de Joris Lacoste. Et donc, pour la musique, vous, Pierre-Yves Massé, on pourra voir le spectacle à partir de demain et jusqu'à vendredi à Paris, à l'Espace Cardin, dans le cadre du Festival d'automne. Alors moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression finalement que c'est un truc très classique que vous me faites, quoique la forme en soit un peu nouvelle quand même. C'est le lead. Le lead, on prend un poème, c'est-à-dire une sorte de texte face au objet trouvé, puis on met de la musique dessus. Ce que vous faites, c'est pas autre chose ?
Si, c'est autre chose, parce qu'en fait, on prend pas un texte, on prend une parole. Ouais. Et ce qu'on reprend, c'est non seulement le texte de la parole, mais c'est aussi son intonation, ses rythmes, ses espacements. Donc tous ces caractères formels de la parole qui sont en fait, j'ai envie de dire, le cœur du projet de l'Encyclopédie de la Parole. C'est vraiment s'intéresser à la parole, non pas pour ce qu'elle raconte, mais pour sa forme. Comment est-ce qu'on dit les choses ? Plutôt que qu'est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on s'exprime. C'est vraiment ça le cœur de l'Encyclopédie de la Parole. C'est un projet collectif qui réunit aussi bien des artistes que des théoriciens, des chercheurs. Et là, du coup, c'est vraiment un matériau ready-made, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est vraiment la parole déjà
un peu brute.
Et que du coup, j'ai transcrite de façon très, très fidèle. C'est-à-dire, j'ai transformé la parole, qui est un phénomène par essence irrégulier. Je l'ai transformé en une musique, c'est-à-dire en y mettant de la régularité, en essayant justement de dégager la musique qui était déjà présente
naturellement
dans la parole. Puisque finalement, quand on parle, on ne cesse de produire des mélodies. Ouais. Et là, le fait qu'elles soient écrites, réinterprétées par des chanteurs et accompagnées au piano met évidemment en valeur cette dimension mélodique de la parole.
Alyosha, une question, oui. Une remarque.
Oui, j'étais vraiment admiratif. Et en tant que compositeur, comment est-ce que vous faites pour travailler justement sur des langues aussi diverses ? Parce que si vous approchez justement les langues européennes et que vous en faites un objet musical, sans forcément forcément toutes les connaître, j'imagine que vous en connaissez certaines, mais comment est-ce qu'on peut s'approprier une langue pour en faire ensuite effectivement un air musical sans forcément justement la connaître à l'origine ou...
Voilà, en fait, comme on travaillait avec les correspondants qui sont natifs des langues en question, on avait les transcriptions de tous les documents pour ce qui est des textes. Et pour ce qui est de la mélodie, en fait, je suis la mélodie qui est déjà dans la langue, en fait. Donc, du coup, c'est pas comme si je mettais en musique des poèmes. Le poème polonais, il est dit comme ça par l'enfant. Alors, là, quand même, il faut dire une chose sur ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'il y a deux voix, en fait.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire que le Bianca Iannuzzi fait la voix de l'enfant qui dit le texte, et Laurent Deloye fait une voix qui harmonise, en fait, en même temps. Donc là, il y a un travail peut-être plus, effectivement, d'écriture. Mais encore une fois, c'est tout ça s'articule sur l'analyse de la mélodie des documents. Donc, je pars vraiment de ça, en fait.
La musique de la parole, vous le dites bien d'ailleurs, comme compositeur, comme homme, tout simplement, lorsque vous entendez quelqu'un parler, vous entendez, vous, les hauteurs comme ça qu'on produit, les différentes intonations
Surtout en travaillant sur ce projet, ça rend un peu fou. Hein. Évidemment, on n'entend plus ce que les gens disent, on entend juste, tiens, il a fait une quinte diminuée, tiens, c'est intéressant.
Voilà, on ne savait pas d'ailleurs.
Oui ou pas. Oui.
Ça peut être poussant.
Souvent, on fait des tierces mineures, par exemple. C'est l'intervalle le plus courant dans la parole, je m'en suis rendu compte.
Dans la langue française, non?
Non, en anglais beaucoup.
Ah bon?
La pièce de Steve Reich, Come Out, c'est une tierce mineure. Come out to show them, come out to show them, come out to show them. Et c'est vraiment un intervalle typique, quoi.
Vous fatiguez pas comme compositeur dans ce cas-là, j'ai l'impression. Vous prenez la parole telle qu'elle existe,
compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut déterminer un tempo, il faut déterminer. En fait, et surtout, les partitions que j'en fais sont vraiment. C'est mon écoute personnelle de ces documents. C'est-à-dire qu'un autre compositeur aurait fait d'autres partitions avec ça.
C'est ça qui est intéressant. C'est ça que je veux dire, en fait, parce que je pensais vous dire, c'est qu'en fait, vous, quelque part, vous écrivez votre écoute
exactement,
de la parole.
Exactement, c'est mon écoute de la parole qui est donc transcrite comme ça.
Il y a une dimension encyclopédique, parce que dans le titre qui est magnifique d'ailleurs, hein, qui reprend un peu justement quelque chose qui renvoie un peu au XVIIIe siècle.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, dans le projet d'encyclopédie, il y a l'idée de collecter des documents de paroles et ensuite de les, de raisonner un petit peu tout ça, cette collection, en faisant ce qu'on appelle des entrées, c'est-à-dire on va avoir une entrée compression, donc qui va nous permettre d'aborder des cas très différents de ce qu'on appelle la compression dans la parole, ou la saturation dans la parole, ou la mélodie dans la parole. Donc on a comme ça des entrées qui permettent comme ça des espèces de plans de coupe à travers notre collection qui est donc de plus en plus vaste, puisque le projet existe depuis 2007. Hein. C'est un projet qui a 10 ans exactement, l'encyclopédie de la parole.
Un dernier extrait, Cyprus.
An investment into a second passport is becoming nowadays the smartest strategy for frequent flyers, global businessmen, and citizens who originate from troubled regions. Becoming a dual citizen has a great number of benefits, but it could take years for someone to acquire an immigration status through traditional ways. Giovanni Gru and First Class Global Citizen introduce you to the ultimate citizenship experience. A trustworthy partner when it comes to taking the next step with your second passport. Having a dual citizenship, the whole family can enjoy the benefits of visa-free travel and global mobility in more than 150 countries. Uninterrupted access to the most prestigious schools and universities without the need of student visas, efficient healthcare system, and freedom to live and work anywhere within the EU. With a Cyprus citizenship program by direct investment and real estate, you can enjoy full benefits of a European citizen. Do not leave anything to chance. Protect your family's future. Apply for Cyprus citizenship and become a European citizen in less than 90 days. With Giovanni Group and First Class Global Citizen, you can cut through the noise and make the right decision. So why not contact us today and start your journey on becoming a global citizen of the world.
Global Citizen of the World. Heureusement que je prends des cours avec Madeleine, j'ai reconnu que c'était de l'anglais. Laurent Deloye, qu'on entendait chanter ici avec Denis Chouillet au piano dans ce nouvel extrait de cette encyclopédie de la parole, selon vous. Pierre-Yves Masset, un texte anglais, quoi, j'ai pas tout entendu, il est question de quoi là ?
Alors, c'est une publicité qui était faite par une société de promoteurs immobiliers qui invite des immigrants riches, alors c'est le sous-texte, mais on sous-entend qu'ils sont riches, à investir dans leur leur affaire ouais. pour acquérir la nationalité européenne, la citoyenneté européenne. Donc en gros, c'est une façon de dire aux immigrants, si vous êtes riche, achetez la citoyenneté européenne, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous pourrez inscrire vos enfants à l'université, avoir la protection sociale, tout ça. Et c'est d'autant plus ironique que ce document vient après un document où une députée hongroise parle des migrants qui arrivent en Europe, qui défilent. Oui. Donc il y a évidemment deux poids, deux mesures, les migrants qu'on accueille parce qu'ils sont riches et ceux dont on ne veut pas parce qu'ils sont pauvres.
Ça ne dit pas rien quand même. Faut dire, la parole ne dit jamais rien, oui, mais tout enfin, à fait. Particulièrement.
Et puis le montage de paroles, effectivement, c'est aussi le principe du spectacle, c'est que chaque parole est une situation différente. Donc il n'y a pas d'histoire en fait dans le spectacle, c'est vraiment des choses. Mais.
Très disparate comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est comme
qu'est-ce
une espèce
qu'est
de
le
montage.
Lien, en fait,
bah, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est les paroles qu'on ne veut pas entendre. Et puis il y a toujours quelque chose qui, dans le contact entre deux paroles, va créer du sens.
Et puis la mise en scène peut-être aussi.
Et la mise en scène, tout à fait, oui.
Est-ce qu'il y a de sous-titrage d'ailleurs, tiens, pour qu'on comprenne.
C'est surtitré, oui, quand même.
T'as fait envie tout ça,
oui,
hein,
oui, Liouchard, oui, absolument.
Je crois que vous y allez demain, vous.
Écoutez, c'est une belle déambulation à laquelle vous nous invitez, en tout cas.
Oui. À l'espace Cardin, à partir de demain, donc jusqu'à vendredi, ce spectacle Encyclopédie de la parole dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Pierre-Yves Masset, des autres projets après ça, tiens, si on a deux minutes pour en parler encore, une pièce.
Je retourne à Hong Kong en mai. Oui. Pour une nouvelle pièce pour orchestre que je suis en train d'écrire.
C'est marrant parce que vous faites des choses, on se rend bien compte, très très différentes. Hein. Ce qu'on a entendu là, c'est finalement une œuvre qui vient s'inscrire dans une sorte d'installation ou de théâtre musical, quelque chose comme ça, pièce d'orchestre ou autre chose.
Théâtre musical, je dirais plutôt théâtre et musique, puisque c'est finalement une pièce qui est aussi bien théâtrale que musicale. Théâtre musical, ça renvoie à une tradition qui n'est pas tout à fait celle-ci, à mon avis, c'est celle de Mauricio Kagel ou de Lapergis.
Oui, pas là-dedans.
C'est un petit peu autre chose, je pense, esthétiquement. Donc c'est effectivement théâtre et musique à la fois. Mmh. Et c'est très différent, effectivement, de composer une pièce d'orchestre comme je le fais en ce moment. Mais c'est ce que j'aime dans ma pratique, enfin, en tout cas dans le fait de composer, c'est que finalement, en tout cas, composer aujourd'hui, c'est peut-être une particularité de l'époque qu'on vit, c'est qu'on peut effectivement aller dans des champs très très différents à travers la composition.
Et peut-être que je l'ai bien compris, aller chercher un truc sur YouTube et faire de la musique avec, pourquoi pas. C'est pas tout comme ça, mais enfin, c'est vraiment très brut de prendre tout ce que le monde vous donne et puis faire musique avec.
Bah, faire en sorte que la musique soit un petit peu le parle du monde aussi, quoi. Ne soit pas juste une chose close.
Et pour qu'elle parle du monde, il faut aller prendre ce que le monde nous donne d'elle.
C'est une façon possible. C'est une façon de faire, oui.
Classic Club. Lionel Esparza, France Musique.
À bientôt, 22h30 en direct depuis l'hôtel Bedford. On va passer à la deuxième partie de notre programme avec vous, Alyosha Walt-Lazowski, et ce jeu des ritournelles dans lequel on va rentrer. Tiens, vous avez commencé à en parler tout à l'heure par un petit Mozart.
Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola le insegnerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola le insegnerò, sì, le insegnerò, sì, le insegnerò. Sapò, 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 ma piano. Piano, 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 piano. Meglio mi arcano dissimulando scoprir potrò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico pungendo, di la scherzando, tutte le mattine lo vescerò, lo vescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico pungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò. Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor
chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò.
Samuel Ramey, qu'on entendait ici dans cet extrait des Noces de Figaro de Mozart. Si vous voulez danser, mon petit conte, je vais vous faire danser, moi. Avant qu'on vienne à Figaro, peut-être Alyosha. Oui. Freud n'aimait pas la musique, c'est ça?
Absolument, oui. Non, mais ce n'était pas un secret. Hein. Freud détestait la musique. Il avait une sorte d'allergie. Lorsqu'il était enfant, avec ses cinq sœurs et son frère, il avait demandé qu'on enlève le piano de la maison familiale pour qu'il puisse se concentrer sur ses études de médecine et ne pas être perturbé.
Donc, c'est ça qu'on l'avait fait, en plus. Hein. C'était un peu le petit roi de la maison.
Voilà,
hein.
La demande de Freud a été suivie. Et ainsi toute sa vie, enfin voilà, dans une Vienne en pleine effervescence musicale,
bah oui,
un bouleversement,
c'est ça qui est étonnant,
incroyable. Ouais. Le Freud si sensible à l'écoute, si fin dans l'écoute des voix humaines pour pouvoir y détecter des affects et des sensibilités, ne supportait pas la musique. Ce n'est pas un secret. C'est effectivement voilà.
C'était l'inverse de Pierre-Yves, c'est-à-dire qu'il n'écoutait pas la musique dedans, il écoutait que le sens, lui.
Effectivement, ouais. Et il allait de temps en temps à l'opéra, contraint et forcé. Et pendant qu'il était là à l'opéra, il travaillait plutôt sur ce que ses passions on l'avait dit pendant la journée, etc. Donc il avait vraiment une sorte de refus. Ah. Et moi, ça m'a quand même interpellé, parce qu'un refus aussi massif, aussi fort, même ses enfants, il avait trois fils et trois filles, et il raconte dans leur mémoire, chacun de ses enfants, que lorsque les occasions se présentaient, qu'on pouvait chanter en famille pour un anniversaire, lorsqu'on faisait une promenade, etc., le grand Sigmund disait non, pas de musique ici. Donc vraiment quelque chose qui marque et son enfance quand il est enfant et adulte, ça ne l'a pas quitté. Alors j'ai quand même essayé de pister ça, essayé de poser un peu la question.
Et il y a une exception, c'est ça.
Il y a une exception. Alors, il y en a quelques-unes qui sont très rares. Lorsqu'il est à Paris pour étudier auprès du docteur, le professeur Charcot, le soir, de temps en temps, il fuit vers un théâtre-concert, l'Eldorado, pour aller
entendre Yvette.
Voilà, pour écouter Yvette.
Yvette Guilbert.
Voilà, le faire frissonner. Et Sarah Bernard aussi. Ça lui plaisait. Ça lui plaisait bien. Il avait même mis une photo et une représentation dans son cabinet à Vienne. Il avait ramené ça. Donc, le souvenir de Paris, justement, et de Beaumarchais et des Noces de Figaro, ça lui est revenu aussi, Mozart bien sûr, mais ça lui est revenu à une exception, lorsqu'effectivement face à un aristocrate très autoritaire dans une gare à Vienne, il s'est mis à avoir une sorte de pensée révolutionnaire et ce petit air lui est venu à Freud comme voilà, pour essayer un peu en provocation, se sentir voilà, la musique face à l'autorité.
Une espèce de revanche comme ça qu'il y a de revanche, Figaro.
Soudain, voilà, malgré toute la contenue qu'il voulait faire, ça lui est quand même revenu et voilà, et ces petits moments d'écartement par rapport à quelqu'un qui finalement était assez strict, assez autoritaire, malgré évidemment l'immense ouverture de la psychanalyse a créé ensuite des liens avec la musique extraordinaire. Beaucoup de travaux ensuite sur Eros, musiciens, etc. ont suivi. Mais à l'origine, chez Freud, qui était entouré pourtant de beaucoup de gens qui étaient passionnés de musique. Hein.
Et puis Vienne, enfin, c'était pas
voilà,
en plus.
Donc tout ça, quand on raconte les grandes scènes, les grands salons de musique, étonnant que Freud n'y ait pas prêté plus l'oreille.
Ah ouais. La compulsion de répétition, c'est un concept freudien très important. Ça, évidemment, ça rejoint la question de la ritournelle. Vous en parlez dans votre livre, Le jeu des ritournelles, dont je rappelle qu'il paraît tout juste chez Gallimard, collection Arcade, la pulsion de répétition qui est quelque chose de négatif chez Freud, le fait qu'on répète le même événement, qu'on répète le même traumatisme ou les mêmes erreurs finalement, ou les mêmes événements qui vont conduire aux mêmes erreurs, pour vous, ne peut être que lié évidemment à l'idée de la ritournelle, qui est une autre aspect finalement de la répétition.
Oui, c'est vrai, oui, il y a d'un côté cette sorte de rengaine, de répétition mortifère, c'est un peu la pulsion de mort en fait, d'une certaine façon chez Freud, hein, qui interrogeait ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas surmonter, qui est une sorte de répétition à vide, qui tourne à vide, et qui peut aller ensuite à des choses beaucoup plus violentes, médicalement parlant, psychiquement parlant. Ça peut être terrible, effectivement. C'est ces obsessions qui empêchent que la répétition, on arrive à la surmonter. Il y a tout le travail sur le Forda, l'enfant qui a besoin d'envoyer l'objet qui disparaît, hein, parti, et da, l'objet qui revient. Donc il y a tout un travail sur l'absence de la mère et quelque chose ensuite qui est analysé, évidemment, dans le domaine psychologique, psychotique, etc. Et effectivement, donc tout le travail de Freud sur la compulsion de répétition, c'est-à-dire comment surmonter cette répétition qui tourne à vide. Et finalement, la réponse, il l'avait lui-même, parce que la ritournelle, c'est une certaine façon de déplacer, à travers la répétition, de déplacer, de faire varier, d'apporter du changement, d'apporter une respiration. Et c'est très intéressant que du coup, la musique serait la réponse à une grande interrogation freudienne sur la pulsion de vie et pulsion de mort, Eros Thanatos.
La ritournelle, enfin la répétition en musique, Pierre-Yves Basset, comme manière de dépasser un problème ou un traumatisme, ça peut s'entendre comme ça aussi.
Ah, je sais pas si je dirais ça. Moi, ça me fait penser à la petite phrase chez Proust. Cette, ouais.
La petite cette... phrase de Vinteuil, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est vraiment ce vers quoi on revient. De façon, mais là pour le coup, pas du tout de façon mortifère. Enfin, vraiment.
Le côté attachement, c'est ça plutôt.
Oui, et puis pour finalement entrer dans le mystère de la musique et ne pas du tout justement se refermer. Enfin, pas du tout la répétition mortifère. Et effectivement, la répétition. Je pense à ça aussi par rapport à l'enregistrement qui était.
Oui.
J'ai pas mal travaillé sur la question d'enregistrement et les contempteurs de l'enregistrement disent bah voilà, c'est toujours la même chose, c'est la même chose. Donc du coup, ça ne fait pas vivre la musique, c'est de la musique en boîte, ce genre de choses. Et on peut aussi, au contraire, trouver que la musique enregistrée permet une plus grande intimité avec la
l'approfondissement
musique.
L'approfondissement.
Donc ça va vraiment dans les deux sens.
Je crois que c'est le non-musicien Freud qui n'aime pas la répétition dans la ritournelle, et le musicien, lui, évidemment, en jouit, voilà, c'est moins qu'on puisse dire. Gide, c'est le deuxième auteur, enfin, parce qu'il y en a quatre en tout, hein, philosophe ou écrivain, dont vous parlez à travers votre livre, Alyosha. On va l'écouter ici, enfin, pas l'écouter lui, hein, mais écouter Frédéric Chopin, qui est un petit peu au cœur de ce que vous nous racontez. Oui. Thank you. Le prélude en do mineur, dérivé, l'opus 45 de Frédéric Chopin, a été joué par Martha Argerich au piano, choisi parce que vous en parlez de ce prélude, Alyosha Vatlazovski, dans votre livre à propos de Gide, qui était pianiste lui-même, vous nous le rappelez, et qui avait une pratique du piano finalement assez secrète et vous dites presque clandestine.
Ben oui, parce qu'avec Gide, alors là, c'est le retour sur soi, c'est le repli sur soi, ouais. c'est l'écriture intime et le jeu musical intime. Vous savez, toute sa vie, Gide a écrit un journal intime, d'ailleurs, qui est une œuvre magnifique, importante. D'ailleurs, où il écrit un peu sur rien. Aujourd'hui, il a plu. Ce matin, me suis levé, mal de tête, repos forcé. Mmh. Ai envie de jouer au piano et repris quelques gammes. Donc, c'est l'écriture finalement et la pratique musicale ici, c'est vraiment le retour à soi, la marque du territoire, l'intimité. Ouais. Et c'est Gide, c'est très intéressant comment ça traverse à la fois toute sa vie, parce que Gide, c'est aussi un nomade. C'est aussi quelqu'un qui part en Afrique du Nord faire des voyages clandestins aussi souvent d'ailleurs, avec la question de l'homosexualité. Sexualité qui est pour lui fondamentale, qui est le retour aussi à la source, à la vie, à l'énergie, le plaisir. Et donc, avec Gide, voilà, le piano, c'est des moments de suspension du temps. Le temps s'arrête et Gide est presque seul. Il joue jamais pour d'autres, il joue pour lui et il l'écrit, il le note. Donc, il y a ces notes de son journal intime, ces notes sur son piano. Et Chopin, il le dit dans un film où il fait une leçon de piano. C'est un film de 1951 où on voit Gide est très âgé. Hein, il meurt quelques temps après. Il est vraiment à la fin de sa vie, il a déjà eu le prix Nobel de littérature, etc. Il fait une leçon de piano et il confie comme ça un peu mélancolique en disant qu'il a passé plus de temps avec Chopin qu'avec aucun autre auteur, aucun autre écrivain. Et que finalement, Chopin, c'est celui avec lequel il est le plus intime. Et pourtant, on sait que Gide, voilà, c'est quand même un grand lecteur, quelqu'un qui a passé son temps dans les livres. Et finalement, celui avec lequel il a le plus de proximité, d'intimité, c'est Chopin. C'est son compagnon, finalement.
C'est le même rapport, Pierre-Yves Massé, vous qui jouez, vous êtes pianiste aussi, je crois, avec
oui,
les autres compositeurs.
Oui, j'ai été pianiste, mais j'en fait plus beaucoup maintenant. Mais c'est vrai que je comprends tout à fait ça. C'est lorsqu'on travaille une partition, c'est un travail absolument on rentre dans l'intimité d'un compositeur. C'est un travail acharné. Enfin, ça demande c'est extrêmement exigeant et on y passe un temps fou.
C'est comme si on sentait sa voix aussi, hein, aussi bien qu'à travers un texte écrit en fait.
C'est ça, ouais.
Quelque chose de sa parole musicale. Mmh. En tout cas, celle que vous recherchiez peut-être quand on en parlait tout à l'heure. Ce que vient de nous dire aussi Alyosha, c'est cette idée de la musique comme une sorte de pays natal, enfin de territoire auquel on revient. Alors, on est très loin de Freud justement là.
La ritournelle chez Deleuze et Guattari, c'est ce qui marque le territoire.
Mais alors chez Gide, peut-être que vous avez arrêté le piano, vous allez peut-être y revenir, parce que pendant une période, Gide a arrêté, par exemple, pendant 15 ans de jouer. Et en fait, il revient comme une amante qu'on a laissée quelque temps, etc. C'est vraiment un retour à l'intimité, quoi, l'accompagnement du piano. Gide qui change d'endroit, qui change de maison aussi, qui se déplace. Le piano, c'est toujours un retour à soi, effectivement. Donc c'est quelque chose de très très de très très personnel, de très intime, quoi.
Oui, mais j'ai vécu ça il y a pas si longtemps. Je me suis remis au piano de façon très très brève, à un moment où j'avais rien à faire, ce qui est assez rare. Et j'ai vraiment ressenti ça comme exactement ce que vous décrivez là, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, il sera sans doute nécessaire pour moi d'y revenir de façon un peu plus sérieuse.
Voilà, il y a des retours comme ça. D'ailleurs, une scène intéressante que je raconte dans le livre, c'est quand à un moment Gide va faire un peu des déambulations dans Rome, donc c'est Rome nocturne, c'est la fête, c'est la découverte. Et après, il fait une retraite au Mont Cassin, à Monte Cassino, chez les bénédictins, où là, d'un seul coup, évidemment, c'est le retrait, c'est le repli, c'est le silence. Et la seule distraction que s'autorisent les moines bénédictins, c'est de jouer sur des instruments totalement désaccordés, d'ailleurs, le soir, quelques notes de musique ensemble. Et Gide est invité avec Père Intel et un troisième à jouer ensemble. Quelques partitions. Donc c'est des moments un peu de suspension du temps, quoi. Il y a un rapport justement avec un hors du temps, quoi, parce que
quelque chose d'un peu originel aussi.
Oui, absolument. Mais oui, mais il y a quelque chose de très affectif, de très intime. Ça rejoint. C'est vraiment dans le travail de Gide qui a des œuvres littéraires aussi très très diverses, hein, parce que des nourritures terrestres, aux faux monnayeurs. Enfin voilà, il travaille sur des supports très différents. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le thème du retour est très important chez Gide, hein, le rondo, le retour de Gertrude, mais dans les titres même, un retour du RSS, retouche à mon retour du RSS, retour de Tchad, etc. Le mot retour est souvent une démarche gidienne, d'une certaine façon. On peut la qualifier comme ça. C'est une démarche gidienne.
On était sur des choses un petit peu personnelles et je n'ai pas encore dit Alyosha. Vous êtes musicien vous-même, hein ?
Je suis amateur, je suis batteur, effectivement. Bah ouais, je joue dans un groupe. Voilà.
Bah c'est très bien ça.
Donc c'est la question. question du rythme qui aussi m'intéresse en tant que batteur.
Vous avez été pianiste aussi avant, hein ?
Absolument, oui, j'ai commencé par le piano. Et donc là, effectivement, un exercice, bon, même si on peut jouer effectivement avec d'autres instruments, hein, mais quand même très très intime.
Ah oui,
et,
oui.
Et là, c'est plutôt une expérience un peu différente de jouer dans un groupe, mais c'est très très bien aussi.
Et batteur, ça veut dire c'est pour se défouler ou c'est... Non,
ça
participe un peu, non ? Quand on a beaucoup travaillé la philosophie.
Non, c'est vrai que ça peut être intéressant de le voir comme ça.
Un équilibre entre les...
Oui, oui, oui. Non, mais c'est très très amusant parce qu'on peut, on peut évidemment aussi s'amuser avec une batterie et trouver des choses très très intéressantes. Et le rythme m'intéresse aussi comme notion philosophique, comme notion rythmique.
Comme notion littéraire aussi.
Voilà, comme notion littéraire, la désarticulation des rythmes, etc. La question de la cadence, du tempo, de l'accélération, de l'improvisation. Alors, je ne suis pas batteur de jazz. Là, je réserve ça évidemment à des grands. Et pour le faire, il faut être évidemment de très 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 haut niveau. Moi, je suis vraiment très amateur, mais même si on joue dans de la pop ou de la soul music, ce que je fais comme ça pour m'amuser avec mes camarades, il y a quand même des moments intéressants où la batterie d'un seul coup s'approprie un petit peu, impose un univers, se réapproprie aussi un peu l'espace musical. Donc, et puis le dialogue avec les autres instruments est toujours intéressant.
Le troisième auteur dont vous parlez dans votre jeu des ritournelles, Alyosha Wadlasowski, c'est Roland Barthes. On va écouter bien sûr Panzera, dont on va rappeler qu'il était son professeur, bien sûr, hein, qui est un peu au cœur du sujet.
Le Rossignol.
en sourdine de Gabriel Fauré, chanté par Charles Panzera, qui fut parmi d'autres, puisqu'il y a aussi André Boukourechtiev, vous nous le rappelez, Alyosha, l'un des professeurs, l'un des maîtres à penser la musique de Roland Barthes. Vous me disiez à l'instant, mais oui, on pense toujours Barthes du côté de la philosophie, de l'écriture, c'est très bien, mais la musique était là encore absolument centrale dans sa vie.
Mais oui, oui, toujours présente, et aussi dans un rapport d'intimité, de parcours, parce que vous savez que Barthes a passé beaucoup de temps aussi au sanatorium, ouais, à plusieurs reprises, effectivement, avec la tuberculose, donc avec des questions de santé qui étaient très très importantes. Et dans ces moments aussi un peu de évidemment de solitude, de difficulté, c'est là aussi où la musique pour lui, d'un seul coup, avait une place très très importante. Donc tout au long de sa vie, la musique est présente, revient dans ses sorties personnelles avec ses amis. Il va souvent à l'opéra, il en parle souvent. Il a même fait, figurez-vous, un atelier sur le larynx, le pharynx et le guttural.
Ah ouais.
Très intéressant en période structuraliste, bah oui, dominante, de faire des ateliers sur voilà, les différentes parties, les différentes superpositions des strates vocales. En tout cas, voilà, Barthes,
c'est... Vous dites bien, lié à quelque chose de la santé et du souffle.
Absolument.
Donc, c'est pas pour rien que le chant est aussi là.
Ah, mais ça, c'est essentiel. Ça, vous avez tout compris, oui, en disant ça. Non, mais c'est au cœur du rapport de Barthes au monde, à la vie, à l'amour, à la sensation, à l'affect, au matériel, à la matérialité des mots. Vous savez que le grand concept de Barthes, c'est la question du plaisir. Il fait la grande différence entre jouissance et plaisir. Et c'est vrai que la notion de plaisir, elle est centrale. Plaisir des affects, plaisir du corps, plaisir du texte. C'est un des grands ouvrages de Barthes. Et on oublie que cette question du plaisir, elle est liée aussi à l'érotisme, à l'amour, etc. Mais aussi à sa passion de la musique. Pour lui, c'est vraiment des moments de bonheur, des moments de découverte de soi. Et donc, j'ai essayé de retracer un petit peu ces grands moments de rencontre. Ouais. Alors, vous l'avez dit, effectivement, avec ses professeurs, dans les débats musicaux de l'époque, etc.
Avec France Musique, où il a fait beaucoup à l'époque aussi.
Absolument, toutes les interventions qu'il a faites, Aimé Schumann, Rag, etc. Beaucoup, beaucoup d'interventions où, à chaque fois, c'est très intéressant aussi avec Barthes. C'est qu'en fait, il donne son avis. Voilà, on dit à Barthes, allez-y, dites-nous. Il a une voix aussi tellement belle, Barthes. C'est vrai, quand on l'écoute, sa voix, elle est douce, elle est mélancolique, elle est un peu distante aussi, un peu en retrait, dans un équilibre comme ça, très délicat finalement. Et c'est vrai que voilà, avec Barthes, c'est le plaisir. Voilà, j'aime. Qu'est-ce que j'aime ? Et il y a aussi ce grand débat à l'époque entre les anciens et les modernes, où Barthes met un peu les pieds dans le plat et d'un seul coup dit, ben on peut aimer les anciens et les modernes à la fois. Il faut être dans les deux, dans l'avant-garde et en même temps aussi dans le classique. Il faut lire Philippe Solers et lire Chateaubriand. C'est les deux livres qui sont sur sa table de nuit. Pareil pour la musique, puisque c'est la notion de plaisir qui importe. Laissons-nous guider par le plaisir. Et donc, Barthes, c'est vraiment quelqu'un qui apprend à aimer ce qu'on aime, d'une certaine façon. Voilà. Et la musique, c'est vraiment la meilleure manière de le faire.
Le quatrième auteur et dernier dont vous parlez, Alyosha, aura juste quelques instants, à peine quelques secondes, pour évoquer sa figure. Mais enfin, il est un peu central là-dedans. C'est Gilles Deleuze, on va dire créateur du concept donc de la ritournelle. Et en effet, avec le boléro de Ravel, mais je ne savais pas du tout que Deleuze avait parlé du boléro.
Ah oui, c'est central. D'un côté, vous avez Félix Guattari, son ami, son compagnon avec qui il écrit, qui lui ne jure que par Gabriel Fauré. Hein. C'est vraiment ce qu'il adore, Fauré. J'entends encore cette voix de Guattari. Et Deleuze, lui, qui s'intéresse effectivement à cette notion de ritournelle, qui d'un seul coup va émerger entre le chaos et le rythme. Enfin, quelque chose de suspensif comme ça, très intéressant. Alors, il y a d'un côté Mille Plateaux, où c'est d'un seul coup une sorte d'éclatement de l'histoire de la musique. On a à la fois Schumann, on a aussi Boulez, très contemporain. On a aussi l'histoire de la musique du Moyen-Âge, on a une revisitation des cantates, et il monte les liens, et puis on a la musique minimaliste américaine dont on parlait tout à l'heure. Donc avec Deleuze, d'un seul coup, on a des sortes de connexions, des correspondances totalement inédites. On se dit, mais oh là là, ça tangue de partout, il bouleverse tous les codes. Et ça, c'est assez fulgurant, assez intéressant, cette manière de prendre le risque d'aller, d'embarquer. Et d'un seul coup, alors la ritournelle, là aussi, c'est aussi avec Messiaen, évidemment, que ça fait écho. C'est tout le travail de la ritournelle, ça vient de la nature, ça vient des oiseaux, des insectes, des bourdonnements, des crispations, des grésillements. Donc, tout ce dialogue que fait finalement Deleuze avec la musique, comme quelque chose d'assez, c'est une sorte de métaphysique de la musique qui nous propose. Vraiment, la musique, c'est la grande nature, c'est la grande terre, et d'un seul coup, tout plein de compositeurs sont embarqués dans ce voyage.
C'est marrant comme ça fait libération, tout d'un coup, Deleuze, on a l'impression avec ce texte, Pierre-Yves Massé.
Pardon ?
C'est marrant comme Deleuze fait une sorte de libération, de respiration
soudaine. Et puis, pour son rapport à la musique, il a aussi travaillé avec Richard Pinas et Eldon, donc plutôt sur de musique expérimentale électronique. Et sa voix a été aussi beaucoup utilisée, samplée ou par pas mal de musiciens. Donc, c'est une espèce de figure iconique de la musique, d'une certaine tradition musicale.
D'ailleurs, le boléro de Ravel va dans ce sens-là. C'est le lien justement avec la musique électronique. La dernière conversation entre Richard Pinas et Deleuze, c'est au téléphone, quelques jours avant que Deleuze meure en 1900. 1995, qui se suicide, c'est une conversation sur un projet que Deleuze avait d'écrire sur Ravel, et il en parlait justement avec Pinas sur le lien avec la musique électronique. Ouais. Donc c'est vrai que ça permet de s'inscrire dans des histoires de la musique, des multiplications d'histoires.
Si vous voulez en savoir plus sur tous ces rapports-là, passionnant ma foi. Le Merci. Jeu des ritournelles d'Alyosha Vadlezovsky vient de paraître chez Gallimard, collection Arcade. On a dit le Boléro. Bon, je vous diffuse jamais, c'est trop connu, mais enfin bon, là, vous êtes obligé à le faire, là. Hein, bon, on peut pas l'éviter.
Pourquoi pas?
Dernière mesure du Boléro de Maurice Ravel, dirigé par Pierre Boulez, avec le Philharmonique de Berlin. Encore un clin d'œil à Deleuze, hein, puisque des questions, bien sûr, hein, Alyosha, dans votre livre.
On y est.
On y est en plein. Puis un petit clin d'œil au Panama Papers, tant qu'on y est, hein, parce qu'on a appris des choses aussi sur le Boléro récemment. Ils sont pas nécessairement, enfin, qui sont ce qu'elles sont. Nous étions ce soir avec Alyosha Vadlezovsky et Pierre-Yves Massé. Merci, messieurs.
Merci. Merci.
Le Classic Club, c'est aujourd'hui Flora Sternadel, Maud Nourry, Antoine Courtin, Julien Bourdet et Alexandre Martin.
Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
Je vous retrouve demain, mardi, avec Arnaud Torette, Yoann Fargeau et Jules Autric, avec eux on parlera instruments nouveaux et contrastes.
J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
À réécouter sur francemusique.fr.